Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans Cinérama, pas de blind test, pas d'interview, que des chroniques. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour.
Et bien chacun de nous, on a vu des films un peu dissemblables, j'ai l'impression. Marine.
Oui, alors moi c'est deux films avec deux stars du cinéma français, le nouveau film avec Isabelle Adjani, Carole Mathieu et le nouveau film avec Omar Sy, Demain tout commence, et qui n'ont en effet rien à voir l'un avec l'autre.
Toi Manu, c'est pareil.
Je vais vous parler de Mar Rosa de Briente Mendoza, un film philippin, et puis un thriller Oppression avec Naomi Watts.
Et puis moi, je vous parlerai de Papa ou Maman 2, comédie française qui va sans doute cartonner et qui sort le 7 décembre. Je vous parlerai aussi d'un petit film, petite comédie, Le Voyage au Groenland de Sébastien Bête-Bédé. Et on va commencer avec Premier Contact, film de science-fiction proposé par Denis Villeneuve. C'est Cinérama.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Les films de science-fiction sont rares au cinéma. On va peut-être même ajouter les bons films de science-fiction. On aurait attendu plus d'engouement, d'ailleurs, de la part des salles et du distributeur pour Premier Contact, première incursion de Denis Villeneuve dans l'univers de la science-fiction. J'insiste sur la primauté, puisque le réalisateur québécois d'Incendie, Prisoners et Sicario a pris goût au genre et vient d'achever Blade Runner 2049, la suite du film de Ridley Scott. Donc ce film, lui, en revanche, sortira dans un an. Alors avec un peu plus de 300 copies, Premier Contact est loin derrière les deux comédies françaises Papa ou Maman 2 et Demain tout commence, projeté sur près de 1000 écrans. Alors c'est dommage car certains spectateurs devront faire beaucoup plus de kilomètres pour s'offrir une incursion auprès d'aliens venus nous visiter et profiter d'un accueil comme on en a rarement vu au cinéma.
Vous avez des nouvelles à partager ?
8 heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de Premier Contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut.
Maman, qu'est-ce qui va se passer ?
Je sais pas.
D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde.
Docteur Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi.
Si Premier Contact, Arrival dans sa langue originale, repose sur le même principe qu'Independence Day, à savoir des extraterrestres posent leur vaisseau au-dessus de nos têtes, évidemment, ils s'en éloignent très vite. Il ne s'agit pas ici de leur tomber dessus, mais de comprendre ce qu'ils veulent. 12 vaisseaux ayant la forme d'un œuf allongé sont postés donc en différents points de la Terre. L'un d'eux se trouve dans le Montana, aux USA. Une linguiste, Louise, interprétée par Amy Adams, est chargée par le gouvernement d'établir un contact et de comprendre l'intention de ces étrangers. On lui adjoint un mathématicien. Il serait parfaitement malhonnête de ne pas parler dans cette description de la situation émotionnelle de cette linguiste qui a vécu un drame. Sa fille, avec qui elle avait noué une belle complicité, a semble-t-il disparu. C'est ce qu'on aperçoit au début du film. On entre d'emblée dans un rapport à la finitude, au temps, qui aura son importance tout au long du film.
Ils vont arriver. Oh mon Dieu.
Combien ?
Avec nous, ça fait 12.
Il n'y a malheureusement pas de président du monde. Il est impossible de traiter avec un seul pays.
Ça veut dire quoi ?
Offrir armes.
Pas besoin d'un interprète pour savoir ce que ça signifie.
Je suis pas certaine qu'il sache faire la différence entre une arme et un outil.
Voilà le genre de questions qu'on entend. Alors, il n'est pas si facile de parler de Premier Contact sans dévoiler l'intrigue ou sans enlever du plaisir aux futurs spectateurs. Je vais donc m'en tenir à peu de choses. Si vous avez déjà lu le livre de Ted Chiang intitulé « L'histoire de ta vie » dont le film est tiré, eh bien, c'est encore plus simple, car certain de la conclusion de cette rencontre du troisième type, vous verrez les moyens mis en œuvre par Denis Villeneuve pour parvenir à captiver son spectateur. Alors, tout d'abord, la vision des aliens, car oui, même si cela prend un petit moment et Denis Villeneuve sait y faire, nous les verrons, ces aliens. L'histoire du cinéma regorge de formes extraterrestres devenues comiques, soit par manque d'imagination, soit par manque de moyens. Villeneuve est parvenu à s'échapper de la vision anthropomorphique pour nous proposer une forme intéressante. Mais bien plus intéressante est la forme du langage de ces aliens qui s'appuie sur des émotions et délaisse les mots. Les formes deviennent quasiment des œuvres d'art ou des variations sur les thèses de Rorschach notamment. Alors l'intrigue consiste bien à connaître les intentions de ces visiteurs. visiteurs, d'interpréter leur langage. La communication est le nœud du film, ce qui donne l'occasion à Villeneuve d'exposer les principes même de toute compréhension, supposant une attention particulière du spectateur. Un autre enjeu est de savoir si les hommes leur laisseront le temps de s'expliquer à ces aliens. La question se pose d'autant plus avec ces va-t-en-guerre de Chinois et de Russes, 12 vaisseaux avec 12 nations qui les scrutent et tentent chacun leur manière de dévoiler les projets des aliens. C'est l'occasion de recoller à l'actualité, ne serait-ce qu'avec le conflit syrien, puisque cette semaine a été marquée par le veto des Russes et Chinois opposés à la trêve d'Alep. Alors là où dans un blockbuster la rivalité politique aurait fait l'essentiel du film, chez Villeneuve, eh bien ça n'est qu'une source d'inquiétude, l'essentiel est ailleurs. Le premier contact avec le vaisseau de l'immense prairie qui sert de camp de base à l'incursion dans le vaisseau spatial, soit la première moitié du film, est vraiment captivante. Villeneuve combine les moyens du cinéma, l'image, la lumière, le montage, le son, avec les arts plastiques, avec une belle acuité que le spectateur finalement est happé et en attente. Le noir du vaisseau tranche avec les combinaisons orange des messagers. La blancheur du personnage d'Amy Adams, qui renvoie au deuil et à la mort, s'accorde avec la lumière bleutée. On est là plus dans un film indépendant américain que dans un blockbuster, c'est une évidence qui frappe. Alors cette mise en scène soignée conduit à la deuxième partie du film et sa conclusion qui fournit une clé de compréhension, mais difficile d'en parler davantage finalement. Premier contact donc questionne le temps, le rapport qui unit les personnages ou les nations peut être pris comme une métaphore de notre monde, tout comme le rapport à l'avenir et à la mort. C'est une vraie réussite, à mon avis tout amateur de science-fiction eh bien, s'y retrouvera, comme les amateurs de fantastique, parce que bon, voilà, c'est...
Il y a un rapport avec le film de Zemeckis, Contact.
Ben, je ne me souviens plus de Contact. Je pense que c'est, en tout cas, c'est moins mystique.
Oui, il y avait un côté voilà. Très religieux, voilà. Mais
c'est sorti sur... Il y a aussi un rapport filial dans Contact, avec Jodie Foster, avec son père, il me semble.
Ben, du coup, il reprend un peu les codes, finalement, mais là, je trouve qu'il s'en sort très, très bien. Donc, ce premier film de science-fiction de Denis Villeneuve, Premier Contact, est sur les écrans le 7 décembre.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama,
parfaitement au point et incapable de nous tromper.
Et on passe à Carole Mathieu. On avait connu Louis-Julien Petit avec Discount, une comédie sociale qui prenait place dans le Nord et dans laquelle une bande de sympathiques prolétaires ouvrait leur propre banque alimentaire pour combattre les injustices sociales. Pour Carole Mathieu, on a gardé la grisaille du Nord et la veine sociale, mais alors oubliez la comédie, le ton est noir, très très noir, voire désespéré. Carole Mathieu est un médecin du travail fatigué qui officie à Medilem, une plateforme d'appel téléphonique aux méthodes de management plus que musclées. Les employés sont épiés, harcelés, traités de façon inhumaine et bien souvent, ils ne trouvent refuge que dans le bureau de Carole Mathieu. Mais malgré les appels au secours à sa hiérarchie, elle ne parvient pas à se faire entendre. La souffrance de ses patients finit par lui faire perdre pied, le burn-out menace de la rendre folle, mais elle s'acharne à tenter de trouver des solutions au détriment de sa propre santé mentale.
Madame Duvivier, bonjour, je suis Sophie, votre conseillère.
Vous êtes des putains de fucking vendeurs!
Pour moi, il faut que vous alliez voir votre médecin traitant et qu'il vous arrête.
Je vous rappelle les règles d'un médecin du travail, c'est simplement de nous signer des certificats qui nous indiquent si tel ou tel salarié peut travailler correctement sur un plateau.
Je me sentais comme une merde, j'étais plus rien.
Si tu veux pas t'intégrer, c'est pas grave, va bosser au kebab. Moi, je m'en fous.
J'en veux plus. Il faut que ça s'arrête.
Ça ne sert à rien, maman. Ce que tu fais, tout le monde s'en fout.
Ça a du sens dans ma vie. Et les gens ont besoin de moi.
C'est à vous de m'aider. C'est à vous de m'aider.
Carole Mathieu, en plus d'être un rôle en or pour Isabelle Adjani, est une charge virulente et anxiogène contre le capitalisme et le travail qui déshumanise. Plutôt que de faire le choix d'une mise en scène austère et simple, façon la loi du marché, Louis-Julien Petit opte pour une mise en scène onirique, ou plutôt cauchemardesque, qui épouse les tourments de son héroïne. Plus elle perd pied et plus le film devient abstrait, avec des scènes d'hallucination qui nous mettent dans le même état de confusion mentale que Carole Mathieu. Et c'est là que le film finalement trouve ses limites. Malgré un sujet fort et de très bonnes idées de réalisation, il s'avère répétitif et parfois même trop nébuleux. Et puis, pour un film qui a comme vocation de faire entendre la souffrance des laissés pour compte, c'est quand même assez maladroit de laisser autant de place au personnage principal qui finit justement par éclipser totalement les autres personnages réduits au rang d'ombre, tandis que Isabelle Adjani, totalement omniprésente, enchaîne les scènes répétitives de pleurs et de réflexions qui auraient pu être évitées pour la plupart. Et sans remettre en doute son talent, On peut quand même s'interroger sur sa légitimité à interpréter pareil rôle, un rôle social, lorsqu'on la voit au milieu d'un casting de non-professionnels, alors qu'elle est elle-même tellement transformée par la chirurgie que son visage est à la limite de la monstruosité, et on voit malheureusement eh bien, plus une diva déchue qu'une courageuse médecin altruiste. Cela dit, la raison de sa présence est fort simple, hein, puisque l'actrice est à l'origine du projet et qu'elle est également aux commandes de la production. À ses côtés, on retrouve Corinne Maziro, qui est pour une fois dans un contre-emploi total et très convaincant, en directrice des ressources humaines froide et carriériste, et c'est même elle qui vole, je trouve, la vedette à Jenny. Enfin, donc bilan mitigé, on va dire, pour le film. Film intéressant, mais pas non plus une réussite totale.
Et on passe d'un film français à un film philippin qui était à Cannes.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors Marosa démarre hein, très très fort. Hein. Le récit exangu et minimaliste se déroule donc aux Philippines, à Manille. Marosa, son mari et ses trois enfants tiennent une petite boutique au cœur d'un marché quand même assez glauque. Alors pour subvenir à leurs besoins, ils vendent de la drogue. Hein. Ces petits trafiquants en somme vont se faire attraper par une police corrompue qui leur laisse le choix entre la prison directe ou un pot de vin. Alors, Briente Mendoza hein, ne s'embarrasse pas de subtilité. Hein. Il décrit une ville sordide, pluvieuse et boueuse, avec une absence de nuance qui peut fasciner ou rebuter. Alors, tout comme une police effrayante, violente et dénuée de sens moral, au point que nous, pauvres spectateurs, on se prenne d'empathie pour la famille de dealers. Et encore, c'est un euphémisme. Hein. Cette absence, on va dire, de nuance est un peu la limite de ce film coup de poing, diablement efficace et d'un nihilisme extrême. Mais on est un peu habitué avec le philippin. Il en était de même avec les impressionnants Serbie et surtout l'effrayant Kinatay. Mais cette noirceur est quelque peu tempérée par l'humanisme dont fait preuve le cinéaste avec certains personnages. La famille notamment prise au piège. L'argument social échappe in extremis au misérabilisme grâce à la mise en scène puissante de Mendoza jouant avec beaucoup d'intensité dramatique sur les unités de lieu, le commissariat et les shops de Rosa, c'est un peu les seuls endroits où ont lieu le film, et de temps, le récit se déroulant à peu près en 24 heures, guère plus, qui rapproche le film davantage du film noir et l'éloigne, on va dire, d'un cinéma plus social et didactique à la Ken Loach. Alors, auteur d'une quinzaine de longs métrages en 10 ans, dont un film d'horreur inédit chez nous, Briente Mendoza filme ses personnages pris au piège par des représentants de l'État qui ressemblent davantage à des gangsters, avec un style caméra à l'épaule asphyxiant littéralement l'espace. Alors ce style, on va dire documentaire, accentué par une image souvent sale, accentue le réalisme sordide de cette œuvre pas commode. Alors la complaisance guette par moments le film, trop extrême dans ses intentions, mais le réalisateur relève la tête et envoie les enfants sauver leurs parents dans une deuxième partie très dynamique et plus aérée aussi. Enfin, façon de parler, car pour récupérer la somme due, ils vont racketter leurs proches, vendre leurs biens et même se prostituer. Voilà, Marosa est une chronique sociale captée sur le vif d'une dureté anxiogène renvoyant tous les films sociaux des Dardenne à des bluettes romantiques. Alors l'enfer est sur terre, hein, et Mendoza le saisit dans sa brutalité la plus frontale. L'expérience est éprouvante, mais le résultat mérite largement le détour. Et puis enfin, Joaquin Rose, hein, qui interprète Rosa, est reparti cette année avec le prix d'interprétation à Cannes. Alors son jeu juste mais assez neutre ne méritait sans doute pas une telle distinction. C'était une façon de vouloir récompenser un film, mais qui n'aurait pas dû avoir le prix d'interprétation. Surtout qu'elle est aussi bien que le reste des interprètes. Et c'est pas forcément non plus le personnage qu'on voit le plus. Enfin, c'est...
Ouais, mais ça doit être le côté mère courage qui a...
Oui, c'est un peu curieux. Enfin, mère courage, c'est les dealers quand même.
C'est vrai.
C'est quand même pas...
Mais après, elle mobilise tout le monde et puis... Donc, voilà, film philippin qui est déjà sur les écrans.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Et parlons maintenant du voyage au Groenland. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant d'avoir un autre long métrage de Sébastien Bête-Bédé, à qui l'on doit Marie et les naufragés sortis en avril. Une belle fantaisie naviguant entre comédie et conte qui nous emmenait sur la côte atlantique. Et bien ici, changement de décor avec ce voyage au Groenland qui nous emmène évidemment dans ce pays dont la traduction signifie, on ne s'en lasse pas de le rappeler, Greenland, soit pays vert. En fait, de vert, c'est très vite confirmé, le pays, du moins en avril, est parfaitement blanc. Tout y est blanc. La neige qui recouvre la montagne, les petits phoques sont blancs et les ours par là-bas sont également blancs. En fait, ce voyage au Groenland appartient à une trilogie groenlandaise. Dans un premier film, il y avait Inupiluk. Deux Parisiens recevaient deux Groenlandais dans la capitale française. Et dans le film que nous tournerons au Groenland, donc c'est le titre du film, le moyen-métrage était une discussion entre Sébastien Bête-Bédé et ses deux comédiens pour imaginer une suite où les deux Parisiens qui s'appelle tous les deux Thomas, eh bien, irait dans le village. Alors là aussi, il faut s'accrocher. C'est Kuchlorschwark, qui évidemment ne se prononce pas du tout comme il s'écrit.
type-là, c'est mon père. Et ça fait des années qu'il m'invite à Kuchlorswark, ce village du bout du monde où il a choisi de vivre il y a presque 20 ans.
Y aurait pas un petit truc quand même à boire là?
Ah, mais y a pas d'alcool dans le village.
Quoi? Voici Thomas, mon meilleur ami. Je m'appelle moi aussi Thomas.
C'est bizarre quand même ça. Il fait jour tout le temps et ils mettent pas de volets. T'as aucun volet nulle part.
C'est le jour sans fin que tu que je te dise.
Au fur et à mesure, les jours passés à Kuchlorswark nous éloignaient de notre vie parisienne.
C'était pas une bonne idée ce petit footing?
Ouais.
Un village de pêcheurs perdu dans le Groenland, deux amis parisiens qui quittent leur ville pour un ailleurs qu'ils ne connaissent pas, voilà le point de départ hein, de cette comédie doublée d'un conte initiatique sur ce qu'on pourrait appeler la rencontre des cultures. Un voyage qui revêt plusieurs enjeux, éprouver la relation père-fils teintée de tabou et de distance, et la relation amicale entre les deux Thomas. Alors, il y a le décor, ce village de 400 habitants dont on voit certains visages, le chasseur qui ramène chaque fois plus gros gibier, les jeunes qui font du rap ou jouent du rock, on voit à quel point finalement les jeunes du village dont on apprend que peu le quittent, eh bien, imitent le reste du monde auquel ils accèdent via Internet. Sébastien Bête-Bédé pose un regard ethnographique sur ce monde qui vaut le détour. Certains auraient pu y placer un polar, mais le registre de Bête-Bédé, eh bien, c'est l'humour, la fantaisie et le décalage. Ces éléments opèrent dans le Grand Nord, la dégaine des deux Parisiens y est déjà pour beaucoup. Alors évidemment, ce n'est pas dans le rapport qu'a l'un des personnages avec son père exilé au Groenland que l'on va beaucoup rire, mais davantage avec donc le duo de ces deux adolescents, hein, les adolescents étant ceux qui n'en finissent pas d'être adolescents mais qui sont déjà adultes. Donc ces deux adolescents vont rester une bonne partie enfermés quand même dans leur chambre, mais vont aussi se mêler aux habitants. Alors on ne reste pas toujours dans la blancheur immaculée puisque la relation des deux Thomas donnera lieu à l'un des flashbacks. On verra aussi l'origine eh bien, de leur amitié dans un cours de théâtre. Les autres flashbacks se nourrissent de leur activité professionnelle et très étonnamment, eh bien, on assiste à une mise en abîme puisque le duo est intermittent. Cela donne une scène hilarante où le spectateur eh bien, se fait expliquer le système de l'intermittence à la mode groenlandaise en prenant une savoureuse analogie avec les pêcheurs de phoques. Une manière, comme une autre, de distinguer eh bien, les deux modes de vie entre des Groenlandais qui vivent au rythme de la chasse et des Français qui travaillent dans le milieu culturel. Quoi qu'on entend bien à un moment que l'un d'eux travaille sur le tournage d'un téléfilm à la con. Enfin voilà, c'est des petites choses aussi il a réussi voilà, à mettre dans son film. Alors on passe un savoureux moment à suivre les deux personnages qui apprennent eh bien, de leur voyage loin de tout, non seulement sur eux-mêmes, mais sur leur amitié qui se reconstruit. Il y a des gags un peu faciles peut-être, mais on rit souvent et parfois même avec certains habitants. Les deux comédiens incarnent bien les intermittents qu'ils sont finalement. Hein. Toute proportion gardée tout de même, puisque l'un, Thomas Blanchard, fait du théâtre et du cinéma depuis très longtemps. On l'a vu dans Pas de repos pour les braves d'Alain Guiraudy. Quant à Thomas Simeka, le deuxième Thomas, donc, il a intégré la troupe des Chiens de Navarre. Et c'est la troupe des Chiens de Navarre, donc ça l'a fait jouer dans le film Apnée sorti il y a peu, qui était un road movie décalé dans la France du mariage pour tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux trouble avec les trois personnages voilà, qui veulent se marier. On est là dans le cinéma français qui donne un nouveau souffle à la comédie, une bonne tranche de rigolade, mais sans perdre de vue une visée sociologique, politique, philosophique ou ici ethnographique. Voilà. C'est un film que je recommande, voilà, d'autant plus si vous avez vu Marie et les naufragés auparavant. C'était Le Voyage au Groenland.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi?
Tu me reconnais pas, c'est ça?
Ah mais oui, 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 Christine, Christine de Berlin.
De Londres.
De Londres, voilà, c'est ça, of course. C'est cool de te voir avec ton bébé.
C'est ta fille.
Samuel est un jeune animateur de club de vacances nonchalant et optimiste. Sa vie consiste à faire des tours en bateau, ramener le plus possible de filles dans son lit et surtout ne pas penser au lendemain. Un jour, une certaine Christine, une ancienne conquête dont il ne se rappelait même plus, revient avec un bébé, Gloria, qui s'avère être sa fille et dont il se serait bien passé. D'autant que la jeune femme s'enfuit en lui laissant sa fille sur les bras. Il la poursuit jusqu'à Londres en comptant bien la retrouver, puis finit par se rendre à l'évidence, il est désormais père.
J'ai un bébé sur les bras, je trouve pas sa mère, j'ai tout perdu, mon portefeuille, j'ai plus de couches et il pleut.
Ah, vous parlez français?
Ah, ouais, ça m'arrive. Ah, vous allez me sauver la vie.
Avec plaisir.
Papa, maman, elle m'a envoyé un mail.
T'arrête d'envoyer des faux mails et tu dis la vérité à ta fille. Un matin, elle va se rendre compte que tu lui mens depuis des années et ça, crois-moi, ça va réellement la rendre malheureuse.
Maman!
Ça a duré 8 ans. Tu sais ce que c'est 8 ans?
C'est une éternité.
Faut qu'elle rentre à la maison et que tout soit comme avant.
Ça peut pas être exactement comme avant.
Voilà, alors donc Samuel a trouvé un travail de cascadeur, il a fini par s'installer en Angleterre, et 8 ans plus tard, alors que sa fille a grandi et qu'ils vivent heureux tous les deux, Christine, son ex, donc refait surface, bien décidée à récupérer sa fille. Voilà donc pour le pitch de Demain tout commence, le nouveau film de Hugo Gélin avec Omar Sy. Alors, Demain tout commence, mais pour que Omar Sy commence à jouer correctement, il va encore falloir attendre un petit peu. Hein. C'est quand même l'un des soucis majeurs du film. L'aura de la star gangrène tout, un peu comme dans Carole Mathieu finalement, sauf que il ne s'agit pas ici d'Isabelle Adjani, hein, mais de Omar Sy, c'est-à-dire un comédien de seconde zone, promu star du cinéma français. Omar Sy se retrouve désormais à jouer des rôles bien trop difficiles pour lui, étant donné que, ne l'oublions pas, son éventail de jeu est quand même assez limité. Et dans le cas de Demain, tout commence, bien savoir communiquer quelques émotions n'aurait pas été de trop pour donner un peu de substance à cette comédie ultra conventionnelle, supposée être attachante, mais surtout très tire-larme. Alors heureusement, Omar Sy est très bien entouré, hein, puisqu'on en trouve autour de lui un bon casting. La petite fille, interprétée par Gloria Colston, est une vraie révélation. Il y a également Antoine Bertrand, un comédien québécois qui est aussi très bon, qui est une star en son pays, mais pas ici, mais qui va sans doute pas tarder à le devenir. Et Clémence Poésie s'en sort haut la main dans un rôle délicat de mère paumée, vouée à être haïe par le public, contrairement au personnage de Omar Sy. Alors au niveau de la mise en scène, bon, vous passerez un moment agréable, même si on déplore quand même beaucoup d'incohérences, pas mal de fautes de goût et de nombreux retournements de situations qui sont à la fois incohérents et de mauvais goût, en particulier quand même le twist final qui est franchement sordide, voire même sadique. Peu de subtilité, hein, donc quand même de la part de Hugo Gélin, le réalisateur, qui n'est en même temps pas non plus connu pour avoir fait de grands films. On l'avait connu avec Comme des frères, et il continue ici de surfer sur l'émotion facile et l'humour moyennement hilarant. Ouais, c'est une comédie familiale, on va dire. Hein. Ça sera aussi vite vu, aussi vite oublié.
Et ça permet peut-être de faire un peu de bashing autour de Omar Sy.
Oui.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors l'affiche d'oppression, hein, magnifique et alléchante, hein, laisse libre cours à une imagination fertile, on va dire l'espoir un peu secret d'assister à une petite perle méconnue qui emprunterait les territoires fantasmagoriques des maîtres du suspense, d'Hitchcock à De Palma, en passant par le Fincher de Gone Girl. Alors la présence au générique de la trop rare Naomi Watts est une des autres réjouissances de ce thriller qui flirte à un moment avec le fantastique. Le générique débarre, on est bien installé dans son fauteuil, tout heureux de voir ressusciter un genre qui a un peu disparu des écrans, ou du moins qui se fait très rare, et que ne voit-on pas inscrire en toutes lettres EuropaCorp. Et là, on se frotte les yeux une fois, puis deux, et le titre a évidemment disparu. On se dit à ce moment qu'on a rêvé, que non, ce n'est pas la boîte de Besson qui a produit le film, encore avec un peu d'espoir. Et puis le film commence avec un sujet qui envoie un autre, hein, depuis le décès de son époux, dans un accident de voiture introduisant donc le film, Marie, pédopsychiatre, vit seule avec son beau-fils paralysé dans un chalet isolé de la Nouvelle-Angleterre. À l'approche d'une violente tempête de neige, Tom, l'un de ses jeunes patients, est porté disparu. Marie, tout à coup sujette à des hallucinations et prise de paranoïa, est bien décidée à retrouver le jeune garçon avant qu'il ne disparaisse à jamais.
Je vous en prie, il faut que vous me fassiez confiance.
Mais écoutez ce que vous dites, vous me parlez de fantômes. Ce n'est pas vous.
Mais enfin, vous pensez que je le sais pas, que ça a l'air délirant. Il se passe quelque chose d'anormal, je peux le prouver. Steven a eu de grosses griffures au visage.
Vous ne dormez pas assez, vous êtes déphasé. Vous voulez absolument que tout ait un sens et vous vous accrochez à des explications irrationnelles. Écoutez, vous l'avez peut-être griffé vous-même sans faire exprès.
Quoi ? Oh, Seigneur, je sais pas ce qui serait pire que tout ça, que toutes ces choses arrivent vraiment ou que je sois en train de perdre la tête.
Alors les 30 premières minutes fonctionnent plutôt bien, malgré un sérieux problème de rythme. Si l'ensemble se suit sans déplaisir, Oppression ressemble à un DTV, pour son côté cheap, le film n'ayant pas coûté trop cher à mon avis. Sans la présence de Naomi Watts, très impliquée par ailleurs, en vrai professionnel, on se demande vraiment pourquoi ce petit thriller anodin bénéficie d'une sortie en salle. Mais rien de grave, on peut prendre bien des plaisirs à des petits films vite vus, vite oubliés. Mais comme les scénaristes veulent surprendre le spectateur, ils ont imaginé un twist tellement débile que d'un coup, la mémoire nous revient. Oui, c'est bien une production EuropaCorp, là, à qui l'on doit d'ailleurs Le Transporteur ou Danny the Dog. Bref, pas vraiment un gage de qualité, et là, c'est encore un euphémisme. Hein. De manière étrange, ce rebondissement grotesque aurait pu passer hein, si la mise en scène avait su sublimer ou détourner un tel retournement de situation qui évoque étrangement le début de Dumb and Dumber 2. Alors, comprenne qui pourra, hein, mais je ne peux pas en dire plus, hein, car si ce twist tire le film vers le bas, il lui permet aussi de nous sortir d'une certaine torpeur. C'est tout le paradoxe des grands moments ridicules. Bref, Oppression, hein, d'un cinéaste, Farren Cockburn, que je ne connaissais pas, hein, est un thriller horrifique bas de gamme, hein, aux références appuyées, notamment très fortement à Shining, et puis à la réalisation étriquée. Donc on passe, c'est un peu dommage.
Ouais, sauf pour voir Naomi Watts, pour tous ceux qui en sont fans, évidemment.
Oui.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
En 2015, Marina Foïs et Laurent Lafitte parvenaient avec Papa ou Maman à emmener une comédie du remariage drôle, vache et dont on pouvait imaginer une suite. Et bien voici que la suite arrive sur les écrans le 7 décembre. Un numéro 2 qui apparaît très cohérent puisque ces deux-là n'arrivent pas vraiment à se quitter. Alors oui, évidemment, ils sont séparés mais habitent dans le même périmètre pour les enfants, évidemment. Les enfants qu'on avait peu vus dans le premier opus et qui là prennent plus d'importance. Alors comme dans le premier volet, l'ouverture du film est un plan séquence un peu moins fou. Il ne s'agit plus d'entendre Modern Love de Bowie et de Grimm Marina Foïs en étudiante, mais de suivre les aléas d'une maison au matin. Alors, ça n'est pas affreux, sale et méchant, ni une journée particulière d'Ettore Scola. Ne rêvons pas, mais cette entrée en matière a quelque chose de jouissive, d'autant que le réalisateur Martin Bourboulon prend plaisir à brouiller les cartes et pas seulement dans l'image. Là, nous n'allons pas entendre alors le son de la séquence d'ouverture, mais le système de garde qui a été mis au point par le couple.
On dort où ce soir, là ?
Eh ben, on est mardi...
Mercredi 9.
Donc le deuxième mercredi de...
On est où là? On est chez moi.
On est chez toi.
Donc... Non, t'as sauté une bosse?
Non, janvier, février, mars. Il y a combien de jours en mars?
31. Eh ben donc le deuxième mercredi des mois en 31 jours, c'est chez toi. C'est chez papa.
Chez papa, mon ange.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
On a trouvé un super système.
Bah ouais, ça a l'air.
Ça s'est mis en place tout seul.
Et Emma, elle s'en occupe beaucoup alors... Vincent, pardon. Je me suis trompée. Je dois récupérer le 14 du mois d'après.
Ah, ouais.
Désolée.
Les parents sont donc proches géographiquement, mais bien séparés. Lui, il a Béné et elle, elle a Édouard. Alors si tous sont habitués à Béné, interprété par Sarah Giraudot, sobre, ils vont découvrir en même temps que le spectateur Édouard, nouveau petit ami de Marina Foïs, type absolument brillant, plein aux as, qui rend fou de jalousie l'ex-mari.
Vous êtes de garde ce soir, docteur ?
Ce soir, je dîne avec le nouveau mec de mon ex-femme.
Vous connaîtrez ça bien assez tôt.
Et c'est quoi son nom de famille ?
Morteau.
Ah, Morteau, comme la saucisse. C'est marrant.
Tu fais quoi en fait dans la vie ?
Ben là, je cherche des idées pour claquer mon blé. Parce que comme j'en ai beaucoup, ça prend du temps.
Connard ! On veut vous parler d'un sujet très important. On pense que vous devriez vous remettre ensemble.
Quoi ? L'adolescence est un âge difficile.
Oh, ben, la vieillesse, c'est pas génial non plus. Hein.
C'est sûr. Moi, perso, je préfère m'exploser un bouton que me chier dessus.
On retrouve dans Papa ou Maman 2 les ingrédients du premier. Comique de situation, humour vache, variation sur l'amour, haine, avec quelques séquences savoureuses parce que bien écrites. C'est toujours Alexandre de la Patelière qui est à la source du scénario, à qui l'on doit Le Prénom ou encore Bis avec Cadmerade et Dubosc. Voilà, la comédie a tendance à s'essouffler un peu quand on comprend trop vite où l'histoire nous mène, soit le dernier tiers qui aura coûté le plus cher du film puisqu'il se déroule à La Réunion. Alors pour ceux qui ont aimé Le Papa ou Maman 1, le 2 me paraît une bonne option. Quant à ceux qui aimeraient se lancer, même si on peut voir les deux films indépendamment, autant se faire une séance de rattrapage et d'abord voir le 1 avant de voir le 2. Voilà, c'est par rapport au voyage au Groenland où c'est une comédie désenchantée, là c'est une comédie véritablement franche.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il n'y a pas contrôlé qui est qui.
Quoi, qui est qui ?
Bah quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Voilà, nous avons parlé de 4 films qui sont sortis le 7 décembre. La semaine prochaine, nous verrons eh bien, les autres. Et puis, toi, Menu, tu nous parleras du cinéma japonais.
D'un coffret, d'un livre en fait, consacré à ce cinéma-là, entre 35 et 75.